France Culture.
C'est une histoire qui ressemble à beaucoup d'autres et comme on en voit souvent passer en ce moment où l'on retrouve un grand groupe démantelé, un rachat et des plans sociaux. Bref, une histoire de désindustrialisation mais d'un genre un peu particulier car cette histoire, c'est celle du groupe Casino qui, en grande difficulté financière, était entré en décembre 2023 en négociation avec Auchan et les Mousquetaires afin de revendre la quasi-totalité de ses hyper et supermarchés. À l'époque, l'idée était de garantir l'emploi de l'ensemble des salariés concernés. Le 26 novembre 2024, Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires, avait confirmé le rachat de 294 super et hypermarchés Casino. Et c'est tout récemment, le 3 avril dernier, que l'on apprenait que le groupe envisageait la fermeture de 30 de ses magasins nouvellement rachetés, jugés commercialement inexploitables. Au nord de Marseille, ce sont les 122 salariés de l'hypermarché de Plan de Campagne, zone commerciale la plus visitée de France, qui ont appris la nouvelle. À Lucé, dans l'Eure-et-Loire, l'hypermarché fermera le 11 mai après avoir été installé par Casino en 1997. 85 salariés sont sur la sellette. De Meaux à Metz, en passant par Fresnes, Blagnac, La Riche, Niort, Bagnoles de l'Orne, 680 emplois sont concernés, s'ajoutant ainsi aux 2200 personnes licenciées entre 2024 et 2025 à Casino. Autant d'endroits qui interrogent une réalité nouvelle, celle d'un modèle de la grande distribution qui serait en train de passer de mode pour les uns ou plutôt pour les autres, en train de se réinventer, entraînant avec eux tout un écosystème, car les hyper et les supermarchés dessinent aussi une certaine géographie commerciale de la France. Quand ils ferment, c'est parfois tout un centre commercial, voire même une zone commerciale qui s'éteint avec eux. L'heure de la désindustrialisation commerciale semble bel et bien avoir sonné. Aujourd'hui, notre émission raconte donc une histoire, celle de la façon dont l'espace s'est transformé, s'est adapté à de nouveaux modèles économiques, fait lieu, justement. Ce sont les grandes et les très grandes surfaces, point d'ancrage de la consommation, lieu par excellence de la rencontre de l'offre et de la demande. Deux Arlésiennes reviennent depuis plusieurs décennies maintenant. Ce serait à la fois la fin des hypermarchés, prédit depuis très longtemps, mais aussi celle des centres-villes, d'où les petits commerces fuient, faute de fréquentation. Deux réalités qui interrogent la valeur du temps et celle de l'espace et qui font donc des hyper et supermarchés des espaces marchands en perpétuel mouvement et donc notre lieu de l'écho aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Et pour revenir sur ces lieux emblématiques que sont les supermarchés, mais aussi les hypermarchés, et la façon dont leurs modèles économiques, mais aussi géographiques, ont évolué, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Lebrun. Nicolas Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université Picardie-Jules Verne, secrétaire général du centre du Comité national français de géographie. Vous êtes également le directeur d'une revue scientifique en ligne, Géoproximité, au pluriel, dont vous avez coordonné avec Martine de Paris, le dernier numéro qui porte sur le thème commerce et proximité, qui de fait va nous intéresser pour toute cette heure qui vient. Également avec nous, Pascal Madry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et urbaniste, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Vous êtes l'auteur avec Catherine Sabat d'un ouvrage intitulé « En finir avec les idées fausses sur le commerce, comment nous avons marchandisé le monde » paru aux éditions de l'Atelier le 11 avril dernier. Alors, le modèle des lieux de la grande distribution est-il en train de basculer du côté de l'obsolète? Philippe Palazzi, le directeur général du groupe Casino, exposait sa vision le 13 février dernier sur France Info.
Nous avons cédé l'entièreté du parc hypermarché et supermarché. Vous l'avez dit, plus de 425 magasins ont été cédés à des concurrents de la grande distribution. Donc nous sommes aujourd'hui le leader de la petite distribution avec les 7700 points de vente répartis sur tout le territoire en France. Donc le groupe se recentre sur la proximité, le commerce de proximité. Donc c'est une stratégie de développement auquel je crois profondément. Elle s'articule autour de trois axes principaux. Le premier, qui est de nous positionner, nous sommes positionnés aujourd'hui où le marché s'est déplacé, c'est-à-dire sur le commerce de proximité. On voit que les hypermarchés ne fonctionnent plus. Les gens ne veulent plus se déplacer, donc ils préfèrent regarder sur leur téléphone portable, savoir si le magasin est ouvert à côté de leur domicile, des fois qui ferait 50 mètres de trop. Donc on est vraiment dans cette économie et on nous sommes prêts. Donc nous faisons du commerce de voisinage. Nous servons notre voisinage en offrant, bien sûr, les produits du quotidien qui servent à remplir. Donc nous sommes le garde-manger du voisinage. Nous avons également des services. En fait, nous voyons que nos clients viennent très régulièrement, ils achètent moins. Ça permet aussi le commerce de proximité de gérer son budget. On dépense moins dans le commerce de proximité. Pourquoi ? Parce que l'on vient acheter ce dont on a besoin.
On voit que les hypermarchés ne fonctionnent plus. Voilà la déclaration de Philippe Palazzi, donc directeur général du groupe Casino. Nicolas Lebrun, c'est un constat sur lequel on peut s'accorder. Dans quelle mesure s'agit-il d'un mouvement de fond ou de difficultés propres uniquement au groupe Casino ?
Il y a vraisemblablement un petit peu des deux, hein. Mais l'hypermarché, effectivement, est remis en cause depuis une quinzaine d'années. Hein. Donc ce format serait désormais inadapté, notamment à nos pratiques de consommation, qui s'inscrivent pas nécessairement, je dirais, dans la proximité, comme on vient de l'entendre, mais qui s'inscrit davantage dans nos pratiques de mobilité aussi. Hein, et de ce fait, on a un rapport au lieu de la consommation qui a considérablement évolué sur les 20 dernières années, notamment, parce que nous sommes de plus en plus mobiles et de plus en plus exigeants aussi quant au choix de nos lieux de consommation.
Et on va voir effectivement que cette mobilité reconfigure à la fois les espaces, les territoires, mais aussi les modèles économiques de fait de ces enseignes qui sont confrontées à un certain nombre de difficultés. Pascal Madry, il y a le cas de Casino, bien sûr. On pourrait aussi citer celui d'Auchan qui a annoncé supprimer 2389 postes en novembre dernier. Est-ce qu'on se situe, de votre point de vue, à une sorte de tournant de façon assez générale ? Est-ce que les difficultés d'une enseigne doivent alerter sur celles d'un modèle en soi ? Ou est-ce qu'il faut nuancer, se dire, avec ce qu'on vient d'entendre avec Nicolas Lebrun, se dire ça fait 15 ans qu'on alerte là-dessus, il n'y a pas forcément péril en la demeure.
Oh, ça fait même plus que 15 ans que l'on s'inquiète du devenir de l'hypermarché en particulier. On peut préciser d'ailleurs qu'un hypermarché, c'est un magasin donc alimentaire, évidemment, mais d'un grand format, puisqu'il, par définition, il doit développer plus de 2500 mètres carrés. Donc, alors qu'un supermarché, lui, sera plus petit et rentrera dans la case des 400 à 2500 mètres carrés. Voilà. Donc, les formats alimentaires jumbo sont effectivement alors en difficulté. On le prétend depuis la première mention de ces difficultés. Je l'ai vu moi, dans un article des Échos datant de 1977.
Voilà. Oui,
ça ne date pas d'hier. Et c'est vrai qu'entre-temps, un certain nombre d'enseignes sont tombées. On peut penser à des Continents, à des Euromarchés, Radar, des enseignes qui parlent pas beaucoup aux jeunes générations.
Mammouth.
Les moins de 20 ans ne peuvent pas forcément connaître.
Voilà, mais et Nicolas a raison d'ajouter Mammouth. Parce que, en tout cas, dans un premier temps, c'est un secteur qui s'est concentré avec des acteurs qui ont pris des parts de marché sur des concurrents un peu plus fragiles. Et on peut dire que jusque dans les années 90, on a un secteur qui s'est plutôt consolidé avec donc un certain élagage des concurrents. Depuis les années 90, on est entré dans une autre phase et une nouvelle dimension de la crise de ce format. C'est que, en fait, il est arrivé à maturité. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, les ventes globales de ce format depuis les années 90 n'ont pas progressé. Alors oui, avec l'inflation, etc. Mais si on déflate le chiffre d'affaires global des hypermarchés, il n'a pas progressé. Alors que leurs surfaces ont continué de progresser.
Donc il y a un décalage entre une réalité économique et une réalité spatiale, c'est ce que
exactement.
Vous me dites.
Exactement. Et par analogie avec l'agriculture, si on regarde les rendements au mètre carré de ces magasins-là, ils ont chuté de l'ordre de 25 à 30% dans l'intervalle entre les années 90 et aujourd'hui. Donc je ne dirais pas que le modèle est en crise, que les fondements du modèle sont remis en question. C'est qu'on a plutôt un équipement qui aujourd'hui est en surcapacité de vente. Et on y reviendra peut-être avec la situation de Casino, les enseignes les plus fragiles, notamment sur le plan financier, ne sont plus en capacité de supporter cette surcapacité de vente et chute. Mais pour autant, je pense que ce format-là reste encore résilient et qu'il sera présent dans notre consommation dans les 10-15 ans à venir. On y reviendra sûrement.
Et c'est là où on en vient effectivement, Pascal Madry, à quelque chose de plus spécifique, à savoir la santé financière de Casino en tant que telle. Et puis aussi, et c'est là où j'aimerais bien savoir ce qui se passe aussi, dans quelle mesure ce qui se passe est très conjoncturel. Il y a eu, vous l'avez mentionné, l'inflation. On l'a entendu aussi dans le témoignage de Philippe Palazzi, mais il y a eu aussi des budgets de plus en plus contraints De fait, il y a eu des chiffres publiés récemment. Entre 2024 et 2025, les ventes de produits de grande consommation ont baissé de 0,9% en volume dans les grandes surfaces alimentaires. Et des chiffres publiés en début d'année, le 14 janvier, faisaient aussi mention non seulement donc d'un recul sur les volumes, mais aussi sur la valeur, qui ont reculé de 0,5% sur un an. La directrice de la société d'études qui est chargée de la mener disait que c'était du jamais vu sur les 10 dernières années. Est-ce qu'on est là face à... On a l'impression qu'il y a au moindre coup de vent, au moindre ralentissement, on va dire aussi plus largement économique. C'est un modèle qui de toute façon était un peu sur la sellette. Alors dans quelle mesure est-ce très conjoncturel, lié à cette période d'inflation notamment, et dans quelle mesure effectivement, Pascal Madry, on est là quand même sur un modèle qui était déjà très fragilisé?
Alors, pour évacuer le cas de Casino, c'est une enseigne qui effectivement était très endettée, qui avait aussi le parc d'hypermarchés le moins performant en indice de prix. Casino avait la réputation d'être plutôt l'acteur le plus cher par rapport à ses concurrents, et donc en termes d'attractivité, il n'avait pas la même efficacité que d'autres enseignes concurrentes. Et par ailleurs, compte tenu de cette difficulté, d'un modèle d'exploitation peut-être un peu moins efficace que ses concurrents, c'est aussi un acteur qui, pour générer de la croissance, a eu beaucoup recours à de l'endettement. Et donc, ces deux fragilités-là, un modèle économique un peu moins efficace et puis une dette qui a eu toujours plus de difficultés à se refinancer, et malheureusement tombée. Mais n'oublions pas Cora non plus, qui dans la même période a disparu. Alors, l'effet de l'inflation, alors, vous citez les chiffres de Circana, je pense. C'est vrai que c'est la première fois que la grande distribution alimentaire est si sensible en fait à un choc sur le pouvoir d'achat. Alors qu'habituellement, elle avait plutôt un rôle d'amortisseur, et quand il pouvait y avoir une phase de croissance du chômage par exemple, ou des tensions sur les revenus, sur le pouvoir d'achat des ménages, en général c'était plutôt l'hypermarché, avant même parfois les formats discount, qui servait un petit peu de variable d'ajustement pour les ménages. Et là, pour la première fois, ce sont les premiers à être touchés par ces tensions. Et dans le même temps, on constate que le commerce alimentaire de proximité, là je parle vraiment des boulangers, de l'artisanat commercial,
petits commerçants,
ont réussi à maintenir au moins leur chiffre d'affaires, voire même à connaître des progressions de chiffre d'affaires. Donc ce qui nous révèle qu'on n'est pas uniquement sur des arbitrages uniquement financiers liés au pouvoir d'achat, c'est que derrière, il y a aussi de nouvelles aspirations, de nouveaux modes de consommation mis en œuvre par les consommateurs.
Et c'est là, Nicolas Lebrun, où finalement les deux se recoupent aussi, à la fois la pression budgétaire propre à chaque ménage, mais aussi des habitudes qui s'ancrent chaque jour, chaque année davantage. Et c'est ce qu'on entendait aussi dans le son qu'on a diffusé un peu plus tôt de Philippe Paladi, c'est que cette idée... très prégnante, que finalement, avec un budget plus contraint, forcément, on se déplace nécessairement moins. Je voulais aussi vous citer le témoignage, pour quitter un peu le cas Casino et faire un état des lieux plus global, le témoignage d'un directeur de supermarché dans le Nord. Alors, le nom du supermarché n'est pas cité, mais qui témoignait dans un article du Monde. Dans ma zone, le taux de chômage prise est de 25%. Ce n'est pas une clientèle qui se fait plaisir. Ils achètent moins, mais plus souvent. Là, on en arrive, Nicolas Lebrun, à ce qui fait le modèle même des hypermarchés. Cette idée qu'au départ, on s'était dit, pourquoi pas centraliser finalement tous les achats possibles et imaginables, alimentaires mais pas que, et ça permettra de faire toutes ces courses en une seule fois. Aujourd'hui, et dès lors que les budgets sont plus restreints, c'est moins le cas. De ce point de vue-là, on peut dire que le modèle de l'hypermarché n'est plus adapté aux habitudes de consommation.
Alors oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'historiquement, si l'hypermarché s'est imposé, c'est aussi parce qu'il apparaissait comme moins cher que le petit commerce. Donc il y a eu pendant très longtemps, je dirais, une progression des hypermarchés qui est due à cette image, qui d'ailleurs relevait une certaine réalité pendant très longtemps, selon laquelle justement il y avait pour notre pouvoir d'achat, c'était mieux d'aller en hypermarché. Alors ça s'appuyait sur une largeur de l'offre particulièrement forte, etc. Effectivement, à partir du moment où la consommation a tendance à se restreindre, la largeur de l'offre se justifie moins, mais le gain de pouvoir d'achat, lui, se justifie toujours autant. Donc, ce qui remet en cause l'hypermarché, c'est pas nécessairement, je dirais, le fait qu'il offre trop de produits. Mmh. C'est vraisemblablement d'autres choses qui ne relèvent pas de ça, dans la mesure où le petit commerce, notamment alors, si on regarde chez un certain nombre de groupes qui sont présents à la fois dans les petits supermarchés comme dans les hypermarchés, type Carrefour, par exemple, est quand même encore aujourd'hui plus cher que l'hypermarché. Donc, il y a un gain de pouvoir d'achat à condition de restreindre la consommation. Mais on ferait les mêmes achats en hypermarché, on aurait aussi ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'en gros, la question du pouvoir d'achat, on l'interprète un peu de la façon qui nous arrange, et c'est un petit peu ce que fait donc le directeur de Casino.
Alors on a une première ébauche de cette définition ou du modèle même des hypermarchés. On a parlé d'enjeux de taille et de surface avec vous, Pascal Madry, des enjeux de politique aussi, des prix avec vous, Nicolas Lebrun. Et vous avez parlé de l'origine, du moment où se sont commencé à s'implanter ces hypermarchés. Alors pour comprendre pourquoi ils ont commencé à se développer, pourquoi ce modèle économique a trouvé preneur et comment ils sont devenus le lieu par excellence du commerce, retour en archive avec l'ouverture en 1969 d'un hypermarché marché à Creil que couvrait l'émission Picardie Actualité.
Le premier volet de notre enquête concernant les surfaces de vente en Picardie nous conduit ce soir dans l'Oise entre Creil et Chantilly. Là, nous allons visiter un centre commercial où règne un esprit nouveau. Voici un hypermarché. Quels sont les différents critères qui ont motivé l'implantation d'un tel centre ? C'est ce que nous avons demandé au directeur, M. Amalia.
C'était tout d'abord la nécessité de fournir aux habitants de la zone creilloise un centre commercial qui n'est absolument rien à envier à ceux qui existent déjà dans toute la France et plus spécialement dans la région parisienne. L'hypermarché se distingue par un assortiment bien plus élevé que celui d'un supermarché, un assortiment d'environ une trentaine de milliers d'articles, se distingue par une politique de prix que nous empruntons, avec un terme que nous empruntons à l'américain, le terme de discount, ce qui signifie que les prix sont tirés vraiment au plus bas.
Je trouve que c'est très pratique parce que ça gagne beaucoup de temps. On trouve tout sur place et les heures d'ouverture permettent à n'importe qui, les seuls qui travaillent ou de venir tard le soir avec le mari, c'est vraiment très
bien. La première fois que vous venez ici?
C'est la première fois que je viens ici, oui. Ce ne sera pas la dernière.
Vous êtes de Creil?
Non, de Chantilly.
Alors vous venez en voiture ici combien de fois par semaine?
Oh, une fois par semaine.
Oui, c'est la deuxième fois.
En général que le samedi.
Le samedi, vous êtes de Creil?
Non, de Senlis.
Là, vous venez en voiture, donc ici.
Ah, bien sûr.
L'hypermarché est un sexagénaire qui se porte très bien. Il reste depuis les années 80 le magasin préféré des Français pour leurs achats de produits de grande consommation. Ceux-ci leur consacrent un tiers de leurs dépenses alimentaires et 17% de leurs achats non alimentaires. Je cite là votre ouvrage, Pascal Madry, très récemment paru, je le disais, et intitulé « En finir avec les idées fausses sur le commerce ». Alors là, c'était une archive de 1969. Les premiers hypermarchés arrivent en France un petit peu avant cela, quand même, dans les années 50, on va dire deuxième moitié des années 50, début des années 60, lorsqu'ils font leur apparition, sur quoi misaient-ils? Quelle était la logique, Pascal Madry?
Nicolas l'a déjà un peu dit. Une rationalité. Alors d'abord une rationalité spatiale, effectivement, c'est pouvoir trouver tout sous le même toit et donc toute l'offre qui auparavant était proposée par une myriade de petits commerçants indépendants était présentée donc dans un même espace. Le prix, on l'a dit, parce que la grande révolution discount. On a entendu le terme dans cette archive. La grande révolution de la grande distribution alimentaire, elle est peut-être pas tant dans le format de vente que dans le modèle économique qu'il y a derrière et qui est basé en fait sur un renversement complet du modèle du commerce traditionnel. Le commerce traditionnel, de façon très schématique, c'est vendre peu de produits, hein, avec des marges élevées. Donc la différence entre le prix de vente au consommateur et le prix d'achat au fournisseur, des marges élevées de l'ordre de 40-50% en moyenne. L'hypermarché est venu en proposant des marges réduites de l'ordre de 10-15% et permettant donc d'offrir les mêmes produits, ou en tout cas des produits un peu plus industrialisés, mais à des prix effectivement très 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 importants. Avec malgré tout un recul par rapport à ce que pouvait offrir un commerce de proximité, c'est précisément la proximité. C'est-à-dire que la grande distribution, en termes marketing, on la définit toujours par rapport à, de façon très schématique, là encore, quatre grandes variables. Le prix, un prix attractif, un bon emplacement, la place, une bonne publicité, la promotion, et puis j'oublie le produit, évidemment. Il y a une variable qui n'est jamais citée, c'est celle du temps. Or, pour se rendre dans un hypermarché, à l'époque, en 1969 ou en 1963, dans le premier Carrefour ouvert en France, mais même encore aujourd'hui, en moyenne, il faut à peu près 20 minutes de voiture. Puis, si on est garé sur la place la plus éloignée du parking de l'entrée, il faut à peu près encore 15 minutes de marche. Et puis oui, alors dans les années 60, on passait à peu près une heure à faire ses courses dans ces grands ensembles alimentaires. Aujourd'hui, on est plutôt sur la demi-heure. Et on rajoute ensuite 10-15 minutes pour revenir à sa voiture, la charger. Et puis encore 20 minutes pour revenir. Voilà. Donc une course en hypermarché, c'était, en tout cas à l'origine, c'était quasiment 2 heures de temps pour profiter d'une rationalité spatiale, mais surtout pas d'une rationalité temporelle.
Donc de ce point de vue-là, ce que vous nous dites, c'est que le modèle des petites boutiques, du commerce de proximité, était beaucoup plus efficace dans la gestion du temps que ne le sont les hypermarchés.
Et on avait toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent, c'est qu'avant que la grande distribution s'invite dans le paysage commercial de nos sociétés modernes, le commerce était organisé sous forme de confettis, présent partout dans les territoires, y compris dans les centres-bourgs, dans les milieux les moins peuplés. Et on avait accès à une offre, alors certes peut-être moins pléthorique que celle de la grande distribution, mais on va dire une offre de base qui accessible en gros à 5-10 minutes à pied maximum. Et donc c'est ça un peu le compromis de la modernité, c'est vous allez pouvoir plus, moins cher, mais il faudra un peu plus de temps malgré tout pour accéder à cette offre.
Nicolas Lebrun, si on fait un rapide calcul, on se rend compte très rapidement qu'entre la très grande surface dont il est question, la très grande superficie, les parkings, les voies d'accès aussi, si on les prend en compte, tout cela demande du foncier disponible, de l'espace disponible. Dans quelle mesure, lorsque ces hypermarchés ont fait leur apparition dans les années 60 en France, cela a entraîné une reconfiguration de certains espaces, je pense notamment à ceux en entrée de ville, mais pas nécessairement uniquement. Comment cette logique de confetti, pour reprendre les termes qui viennent d'être employés, à cette logique de centralisation, a reconfiguré cet ensemble-là, et comment a-t-il été accompagné cette reconfiguration ?
Alors, le développement des modèles d'hypermarché s'est fait essentiellement en périphérie, dans un premier temps. Il y en a eu aussi, je dirais, au cœur des quartiers, notamment les nouveaux quartiers populaires, type cité HLM, etc., ou en sortie de quartier. Mais, effectivement, il est très consommateur de foncier. Sauf que à l'époque, c'était pas forcément un problème. C'était pas forcément un problème dans la mesure où ça s'accompagnait d'une évolution beaucoup plus globale, qui était d'un autre rapport à la mobilité, et notamment le fait qu'il y avait donc une place accordée à l'automobile qui était particulièrement importante. Donc, comme on est dans un urbanisme fonctionnaliste qui sépare les différentes fonctions dans la ville, le fait d'avoir des zones commerciales dédiées entrait pleinement dans ce modèle, et donc l'hypermarché s'est imposé de façon très naturelle dans une évolution globale de la ville. L'hypermarché seul d'abord, et c'est ensuite à partir des années 1980 que ces zones commerciales se sont développées autour, et que là il y a eu une consommation de foncier qui s'est accrue, facilitée par un cadre réglementaire qui est encore jusqu'à très récemment très souple.
C'est ce que j'allais vous demander, Nicolas Lebrun. Vous parlez du fait que ces hypermarchés s'imposent de façon très naturelle, mais dans quelle mesure ont-ils été encouragés ? Est-ce que les pouvoirs publics y ont vu une opportunité, une façon de réarranger l'espace de façon plus efficace, de juguler les flux ? Comment c'est accompagné ou vu par les pouvoirs publics, et notamment les pouvoirs urbains ?
Alors, les pouvoirs publics n'ont pas cherché à faciliter ce type de distribution. On a même eu très vite un réflexe inverse, à savoir une volonté pour le politique de défendre le petit commerce. De défendre le petit commerce parce que ce modèle donc apparaissait plus en conformité avec les attentes des électeurs, etc. Et c'est pour ça que je dirais que dès 1973, on a eu la première réglementation, la loi Royer, sur donc les implantations de grandes surfaces. Hein, qui a fêté donc ses 50 ans récemment, et qui a subi de multiples évolutions dans la mesure où elle n'a jamais été véritablement efficace, puisque, on l'a vu, hein, ça fait 40 ans que le nombre de mètres carrés d'hypermarché augmente, 50 ans même, et il a continué à augmenter, y compris lorsque le pouvoir d'achat des ménages a stagné.
Pascal Madry, on voit là qu'il y a une évolution qui finalement convenait aussi à des habitudes de consommation. Il y a une acceptabilité aussi du déplacement qui était réelle à cette époque. On voit que l'aménagement urbain aussi a facilité, notamment grâce au parking et aux voies d'autoroutes notamment. Mais dans quelle mesure vous parlez des hypermarchés comme l'endroit préféré des Français, en tout cas l'endroit commercial préféré des Français? Est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce qu'il y a un nombre supérieur d'hypermarchés en France par rapport à nos voisins européens, par exemple?
Alors, certains historiens pensent même que l'hypermarché est une invention française. Donc, Carrefour a été le concepteur de ce type de format alimentaire en 1963. Alors, il y a une controverse sur ce sujet-là. Il y a des géographes belges qui démontrent que non, en fait, le format est d'abord né à Anderlecht. Et puis, il y a des géographes américains qui disent non, c'est d'abord venu de chez nous. Enfin bon, bref, comme toutes les innovations.
On va pas rentrer dans ce conflit et n'y prendre parti.
Mais en revanche, il est clair que l'hypermarché a une place en France qui est absolument incomparable avec d'autres pays. On l'a dit, hein, c'est un tiers des dépenses de consommation alimentaire des Français qui vont à ce format-là. On n'en compte que 2200 en France, hein. Voilà, 2200 magasins qui captent un tiers de ce que l'on retrouve dans nos frigos et placards. C'est juste considérable en termes d'efficacité économique. Et ce modèle, donc, s'est particulièrement imposé en France, un peu dans les mêmes ordres de grandeur en Angleterre, enfin, en Grande-Bretagne, et puis aux États-Unis. En revanche, partout ailleurs, en tout cas dans les pays passés par une société de consommation de masse, ce sont plutôt les supermarchés, voire même encore le commerce de proximité qui va dominer. Je prends l'exemple de l'Allemagne, il n'y a quasiment pas d'hypermarchés. Ce sont là-bas d'abord les supermarchés hard discount qui captent l'essentiel des dépenses de consommation alimentaire. Donc oui, c'est un modèle historique spécifique à la France.
Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on disait à l'instant avec Nicolas Lebrun, c'est cette idée que ce soit le politique qui se soit saisi de la question de la défense des petits commerces, que c'est fait plutôt mouche de ce côté-là, plus que du point de vue de l'acte de consommer, finalement, que ce ne soit pas vraiment la population, le consommateur français qui soit attaché à son petit commerce. Vous souscrivez ou non? Je vous vois.
Alors, c'est vrai à partir des années 70. C'est à partir de ces années-là que l'on voit les pouvoirs publics, donc le gouvernement, les parlementaires, les collectivités, réagir sous la pression d'ailleurs des commerçants indépendants. Il y a un certain nombre de mouvements. Alors, on a connu Poujade dans les années 50, Nikou à cette époque-là. On a une réaction des pouvoirs publics, mais qui est d'abord liée à une contestation des commerçants indépendants. Ça ne vient pas d'un mouvement de consommateurs. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avant, c'est les années 70, le premier promoteur du commerce moderne, et notamment donc des hypermarchés, a été l'État. C'est-à-dire que si on regarde les grands projets d'urbanisme apparus dans les années 50-70, Nicolas a parlé des ZUP, les zones à urbaniser en priorité, ces grands ensembles de logements. Comment concevait-on le commerce dans ces grands ensembles? Non plus sous forme de rues avec des boutiques, mais de centres commerciaux, copier-coller d'un modèle américain. Un peu plus tard, les métropoles d'équilibre, le programme des métropoles d'équilibre, qui était là pour moderniser les cœurs historiques des villes moyennes en les adaptant à la voiture. Cette politique s'est appuyée sur quoi? Systématiquement, la création d'une dalle en plein cœur de capitale régionale avec un centre commercial. Donc c'est la Part-Dieu à Lyon, c'est Saint-Sébastien à Nancy, Saint-Jacques à Metz, et on en trouve comme ça une vingtaine. Et puis on peut finir avec les villes nouvelles, quand l'État a fait la promotion des villes nouvelles, on est dans les années 60. Là encore, systématiquement, le cœur de ces nouveaux centres urbains est pensé avec un centre commercial et un hypermarché. Et ça a donné Cergy-Pontoise, enfin Cergy-Trois-Fontaines.
Noisy-le-Grand.
Noisy-le-Grand, Melun-Sénart, alors qu'il lui a ouvert très 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 tard, mais qui était déjà pensé dans les années 60. Donc voilà, un État qui, dans l'après-guerre, a fait clairement de la grande distribution un des leviers d'accompagnement de l'émancipation de la classe moyenne française par la consommation.
Il y a la grande distribution en soi, et puis il y a, Nicolas Lebrun, cette idée très forte qui ressort des propos qu'on vient d'entendre, de centraliser. Ce qui compte, c'est de mettre tout au même endroit. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi cette idée de centraliser a rencontré un tel succès de la part d'à peu près tous les acteurs. Quel était l'avantage, finalement? Est-ce qu'il y avait un avantage pour tout le monde, et donc tout le monde y a trouvé son compte, d'où le fait que toute l'organisation urbaine, spatiale, se soit tournée vers ce modèle-là? Ou est-ce qu'on a vu que ça plaisait plus ou moins et donc on l'a fait? Qu'est-ce qui relève de la stratégie et qu'est-ce qui relève, on va dire, de l'opportunisme dans cette idée de centraliser à ce point?
Alors, il n'y avait pas nécessairement au départ, je dirais, une volonté de centraliser. Elle est venue, je dirais, par justement ces politiques urbaines qui avaient tendance à séparer les fonctions. Et effectivement, une fois que chaque fonction était dans son coin, il y avait plus matière à développement. On a des espaces qui ont grandi assez vite. Qui ont accompagné, je dirais, véritablement, je dirais, une vision de l'urbanisme. Après, il y a eu le succès aussi de ces formats commerciaux qui les a pérennisés, et qui les a confortés, notamment lorsque sont arrivés tout autour des hypermarchés des grandes et moyennes surfaces spécialisées. Et là, grosso modo, c'était impossible de faire machine arrière. Ce schéma, de ce fait, est resté figé pendant très longtemps. Avec, le centre-ville et son contrepoids périphérique, la zone commerciale, aux dépens de tout ce qu'il y avait entre les deux, et notamment des commerces de proximité, de quartier, etc.
On voit donc qu'il y a une nouvelle donne spatiale qui se met progressivement en place, qui rencontre de fait un certain succès, qui façonne aussi l'environnement économique. Vous l'avez dit, de nouveaux acteurs viennent se greffer aussi, des magasins plus spécialisés qui permettent une certaine accessibilité dès lors qu'on se déplace en ce centre-là qui devient une sorte de norme aussi urbaine. Et d'ailleurs, cette idée de se greffer progressivement a été largement documentée. C'est ce que raconte d'ailleurs un reportage de Lorraine Soir diffusé en août 1990.
J'ai très peur de ce système de Lidl parce que, bon, avant, on était à trois à travailler ici, on travaillait comme des fous, on n'arrêtait pas, puis maintenant, on travaille plus tellement. Le commerce n'est pas bientôt fini à cause de Lidl. Hein. Tout le monde court au Lidl hein, maintenant. Hein. C'est plus comme avant. Hein.
L'épicier du coin, qui distribue encore son sourire en même temps qu'il choisit vos pêches, ne peut lutter contre cette concurrence. Contrairement à la grande surface, c'est en effet au centre des villes que le LIDL s'attaque.
J'ai bien peur que nos commerçants n'ont encore pas tellement compris ce qui arrive. C'est que les installations de dépôt correspondent quand même pour l'Est de la France à un grand nombre de magasins. On parle de 5 à 600 pour l'Est de la France. C'est quand même énorme. Ça veut dire au moins 5-6 magasins dans chaque ville. Vous voyez, et ça échappe complètement à la CDUC, à l'urbanisme commercial. Il n'y a aucune loi qui réprime ça. On peut faire ce qu'on veut là-dedans.
Ça va tuer le petit commerce.
À mon avis, c'est la fin du petit commerce. Du moins pour certains produits. L'alimentation, par exemple.
On retrouve là cette idée de la mort du petit commerce, une idée qu'on le retrouve encore aujourd'hui, qui a fait de fait long feu. Pascal Madry, c'est vrai qu'on pourrait se dire, à partir du moment où on comprend que ce modèle où l'on centralise tout est fonctionnel et économiquement viable, forcément la concurrence vient se greffer. Cette concurrence, on a beaucoup parlé des hypermarchés, mais cette concurrence est aussi celle du discount, voire du hard discount. Là, en l'occurrence, c'était en 1990, donc des magasins Lidl qui s'attaquent au centre-ville. Là, c'était là le problème, mais il y a aussi des magasins discount qui se greffent dans les zones où il y a déjà des hypermarchés. Est-ce que dès ce moment-là, en fait, les hypermarchés n'étaient pas un peu dans leur retranchement et en fait ont été victimes de leur succès dans le sens où le modèle qu'ils prenaient a été, on va dire, doublé sur la droite par les discounts?
L'hypermarché est un format discount.
En soi, avec cette politique de prix.
Je dirais qu'avant les phénomènes de concurrence économique, il y a un autre facteur qui a peut-être pesé encore plus dans la disparition du commerce de proximité. C'est un facteur démographique, c'est tout simplement l'exode rural. En 1920, il y a 100 ans, on comptait à peu près selon les estimations, on comptait à peu près 2 millions de magasins en France. Aujourd'hui, on en compte moins de la moitié. De près l'INSEE, on serait à peu près à 900 000. Et la grande distribution, donc deux fois moins de magasins en 100 ans, la grande distribution, elle n'apparaît que dans les années 60. Or, déjà dans les années 40-50, on voyait une érosion massive de ce parc de magasins, d'abord parce que les Français ont décidé de vivre les uns un peu plus près des autres dans les villes. Et c'est d'abord ces phénomènes d'agrégation, de peuplement qui ont conduit à un assèchement en fait, du tissu commercial dans les zones les moins denses. Et la grande distribution n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Et c'est vrai que la grande distribution, de ce point de vue-là, elle est très efficace. Elle génère ce que les urbanistes appellent des effets d'agglomération et ce que les économistes appellent des économies d'échelle. C'est vrai que pour à chiffre d'affaires égal, dans l'alimentaire en tout cas, il faut deux fois moins d'emplois qu'une boutique. Voilà. En revanche, il faut trois à quatre fois plus de surface.
Donc on retrouve là l'importance du foncier.
Voilà, foncier pour le magasin et pour les parkings également. Donc on a un modèle qui effectivement est très efficace du point de vue économique et qui conduit mécaniquement à une rétraction du nombre d'établissements et du nombre d'emplois. On peut mettre ça en perspective d'ailleurs avec l'e-commerce. Je disais qu'un emploi dans l'alimentaire, en fait, c'est à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires pour une personne dans un magasin. On va être plutôt à 300 000 dans un hypermarché. Et si on prend un entrepôt de vente en ligne, on est à 500 000. Donc on est peut-être qu'au début de l'histoire.
Et d'autant plus que, et là je raccroche avec l'actualité, et ce d'autant plus que une des raisons pour lesquelles le groupe Casino a été mis en difficulté, mais une des raisons aussi pour lesquelles de façon plus large les hypermarchés sont en difficulté aujourd'hui, c'est qu'à budget contraint, une autre pratique s'est généralisée, celle du drive qui consiste à faire ses courses en ligne pour ensuite les récupérer en point de retrait ou en magasin, ce qui permet entre autres d'éviter les tentations dans les rayons une fois qu'on est confronté aux produits. Et donc ce e-commerce a augmenté de 5,2% en volume en un an. Là, très concrètement, Nicolas Lebrun, on a une logique assez simple à saisir. Tout simplement, ce développement du e-commerce, et notamment dans un cadre de budget restreint, va provoquer une érosion des ventes sur des sites très physiques. Est-ce que c'est pour autant vrai? Est-ce que le lien est à ce point factuel? Est-ce qu'il est à ce point étroit, ce lien-là, entre les deux formes de commerce?
Alors, il ne faut pas oublier que les drives se sont développés dans un contexte un petit peu particulier, au début des années 2010, hein, grosso modo, en France, c'est là que l'essentiel du parc s'est fait. Un contexte un peu particulier où les localisations des drives étaient directement liées au lieu de la consommation habituelle, c'est-à-dire qu'on mettait les drives dans les zones commerciales. Donc, en soi, ça n'a pas changé les pratiques d'un point de vue géographique. Lorsqu'on va au drive, on va aux mêmes endroits qu'avant. On va pas nécessairement, changer ces lieux de la consommation. Ce qui va changer, c'est qu'on va y passer moins de temps. Parce qu'on va aller au drive, mais on va pas faire tout le tour de la zone, etc. Donc on a un rapport à l'efficacité qui est différent. En revanche, géographiquement, ça n'a absolument rien changé. C'est pas parce qu'on a fait sa commande en ligne que on va changer ses lieux de la consommation. En revanche, on va changer son rapport au temps et c'est le moins. Et ces drives, ils ont pu être permis, notamment là encore, parce qu'il y a eu pendant une fenêtre dans l'urbanisme commercial, pendant laquelle, en gros, ils n'étaient pas soumis à autorisation puisqu'ils étaient considérés comme des entrepôts et non pas comme des lieux de vente. Et là encore, la loi est arrivée. Pascal, tu me corrigeras si je dis une bêtise. Je crois que c'est en 2016.
La loi Allure. Oui.
Ouais, donc à un moment où en gros le parc était déjà à maturité, alors aujourd'hui les drives c'est une pratique qui s'est effectivement bien établie, sur lesquelles on va pas forcément remettre en cause les pratiques, mais ça a changé notre rapport au lieu de la consommation.
Et c'est ce que et Pascal Madry, ça a changé, mais en même temps on en revient aussi avec cette idée d'efficacité du temps qui prévalait dans les boutiques qu'on évoquait un peu plus tôt.
Et alors là justement, non, on est dans une hérésie complète. C'est-à-dire que le drive ne fait pas gagner de temps au consommateur. En fait, il se traduit par une mobilité additionnelle. Vous avez des chercheurs du LAET, un laboratoire basé à Lyon, qui ont mesuré que les drives généraient 4% de mouvement en plus chez les consommateurs. Donc il n'y avait pas substitution de leur mobilité dans les drives. Voilà. Et c'est une hérésie économique aussi pour leurs promoteurs, parce que la plupart ne sont pas rentables. Et donc, ce qui veut dire que les grandes surfaces alimentaires ont sorti des mètres carrés qui, eux, étaient rentables pour recréer de l'immobilier avec de l'emploi, etc., qui ne leur rapportent rien, qui leur coûtent. Et par ailleurs, ce sont des flux qui ont été en partie sortis des galeries marchandes et dont se plaignent évidemment les boutiques qui ont perdu une partie de leur flux.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas rentable, cette pratique de... Est-ce que c'est parce que c'est effectivement, on n'a pas la tentation d'aller chercher d'autres produits qui seraient en rayon?
Parce que par rapport aux coûts immobiliers, les coûts fonciers, les coûts de main-d'œuvre aussi. Alors, il y a des magasiniers payés un peu moins cher que des agents de caisse. Mais malgré tout, il y a des coûts de fonctionnement et qui n'arrivent pas à être compensés par les volumes. Alors, vous avez quelques drives rentables, ceux qui dépassent les 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ceux-là sont très rares. Pour le reste, c'est plutôt un service d'appoint, plutôt coûteux, et que maintenant, tout distributeur alimentaire doit développer, parce que s'il n'y a pas ce service, eh bien, c'est un argument pour aller voir la concurrence. Donc, c'est une hérésie et pour le consommateur et pour le distributeur.
Alors, on voit là que ce sont des nouveaux modes de consommation qui ne sont pas forcément très rationnels, on va dire, d'un point de vue à la fois économique et puis spatial également. Je voudrais quand même comprendre, Pascal Madry, dans quelle mesure on peut parler d'une fin de ce modèle des hypermarchés. Alors, une fin annoncée, on l'a dit, depuis très longtemps, mais quand même d'une sorte d'essoufflement. Et puis surtout, au profit de qui? Quel report, finalement, il y a des pratiques de consommation? Je vais citer un extrait d'un de vos articles aussi, où vous aviez rencontré un responsable du développement des concepts de proximité dans le groupe Carrefour, ce que j'ignorais qu'il existait un tel poste, mais qui disait justement « Il est devenu quasi impossible d'ouvrir un nouvel hypermarché en France. Les règles d'urbanisme commercial encadrant les ouvertures de ce type de format de vente se sont durcies depuis les années 90. Surtout, le marché français arrive à saturation. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons le marché national, bien au contraire, notre stratégie consiste à rechercher des niches de marché encore inexploitées. Pascal Madry, est-ce que c'est ça le problème? Il y a eu une saturation du marché, on a ouvert des hypermarchés, ils ont pris de l'espace, ils ont pris des parts de marché également, et aujourd'hui, s'il y a un trop-plein, on n'arrive plus à chercher, trouver même de nouvelles opportunités.
Les hypermarchés, je l'ai dit, captent un tiers des dépenses de consommation alimentaire des Français, et cela depuis les années 90, et cette part n'a pas augmenté. En revanche, le parc a doublé et en nombre d'établissements et en surface. Donc effectivement, on a un format qui est à maturité. Et en gros, à chaque fois qu'il ouvre un nouveau magasin, c'est aux dépens du parc existant. Il y a d'autres critères qui jouent également aujourd'hui. Et on retrouve là d'ailleurs des facteurs démographiques. C'est que, et en lien aussi avec les questions de mobilité que Nicolas travaille finement, c'est que durant cette période-là, entre les années 90 et aujourd'hui, si on regarde comment la population s'est développée dans les villes, en gros, les villes-centres, 0% de croissance, les premières couronnes, plus 5%, et ce qu'on appelle le périurbain, on va dire la deuxième couronne, plus 15%. Ce qui veut dire que depuis ces 20 dernières années, nous sommes toujours plus urbains, mais nous vivons toujours plus éloignés des cœurs de ville, des centres-villes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'en fait, les vraies périphéries aujourd'hui, pour la plupart des urbains, ce ne sont pas les espaces éloignés, ce sont les cœurs. Les cœurs, ce sont les centres-villes qui aujourd'hui constituent les espaces les plus éloignés des modes de vie quotidiens des urbains. Et nos hypers sont plutôt sont sur les rocades, juste à l'intersection des villes-centres avec les premières couronnes. Des rocades complètement saturées aujourd'hui, parce qu'on les a conçues à une époque où on n'imaginait pas qu'il y aurait un tel étalement urbain et une telle croissance des flux. Et nos équipements modernes, mais aussi nos centres-villes aujourd'hui, souffrent en fait d'un engorgement des infrastructures routières qui les desservent. Et on a donc maintenant des urbains, mais plutôt beaucoup de périurbains, qui revoient complètement leur logique d'approvisionnement sur des temps plus courts, et c'est ce qui fait c'est ce qui permet à des enseignes sur des formats plus petits, y compris confettis, et ben de foisonner dans ces espaces lointains périurbains.
C'est intéressant, Nicolas Lebrun, parce que c'est peut-être aussi un peu contre-intuitif de se dire qu'effectivement la propension à accepter le déplacement et à passer du temps effectivement dans sa voiture a baissé. Est-ce que c'est cela qui explique finalement aussi une forme de désaffection vis-à-vis des hypermarchés?
Oui. Alors, je rebondis d'abord sur ce qu'a dit Pascal. Effectivement, nos zones commerciales périphériques n'ont plus de périphérique que le nom. Elles sont devenues beaucoup plus centrales dans les pratiques de mobilité de bien des gens. Donc là, et de ce fait, le regard sur ces espaces d'un point de vue purement spatial a changé. C'était des espaces qui misaient en gros sur leur attractivité, sur leur offre pour attirer les consommateurs. Maintenant, les gens passent une grande partie des gens passent devant dans leur mobilité domicile-travail tous les jours. Donc on est sur de la capture de flux. Et de ce fait, ils n'ont plus à faire cet effort. Et comme en même temps, on a vu que le nombre de grandes surfaces a doublé, ça s'est fait non pas, comme on l'a entendu dans l'extrait, parce qu'il y a eu des contraintes réglementaires particulièrement fortes depuis les années 90, sinon oui, le nombre de surfaces n'aurait pas doublé depuis cette période-là. Ça s'est fait essentiellement parce qu'elles étaient de plus en plus concurrentes entre elles. Et donc, il y a une forme de surenchère où chaque nouvel hypermarché va être un peu plus grand que celui qu'il remplace lorsque c'est un déplacement. Il va être ou un peu plus grand que le concurrent qui se situe dans la zone d'entrée de ville d'à côté, etc. Donc là, il y a une forme de surenchère qui fait que forcément les rendements ont baissé parce qu'il y a une forme de mise en concurrence qui s'est faite, alors même que effectivement, il y avait plus de gens qui passaient devant, etc. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas plus de pouvoir d'achat pour autant.
Alors la grande question, c'est de savoir qui va remplacer ou qui peut remplacer en termes d'offres aussi ces fameux hypermarchés. Ce n'est sans doute pas un hasard si le 14 novembre dernier, le groupe Casino a dévoilé ses grandes orientations sur 3 ans qui doivent lui permettre donc de revenir à l'équilibre en 2026. Une priorité s'est dégagée, se recentrer sur le commerce de proximité. Ce sont les Monoprix, Franprix, Naturalia, Casino, Viva et Spar qui doivent désormais porter le groupe. Alors comment comprendre ce repositionnement? Est-ce que le règne des supermarchés, à la différence des hypermarchés, est-il en train d'advenir? On en parle dans quelques instants. France Culture, notre lieu de l'écho, est une institution en soi du commerce, le supermarché mais aussi l'hypermarché ou la grande distribution face aux enjeux de proximité et de centralité. Un supermarché où il s'agit de ne pas se perdre, c'est le Lost in Supermarket des Clash en 1979. Alors quel modèle économique mais aussi spatiaux se retrouve confronté à cette question à la fois de la centralité, de la proximité mais aussi de l'attractivité? Et on le voit, les hypermarchés ont peut-être fait leur temps malgré leur immense succès. C'est tout le paradoxe aussi de cette émission et donc de ce lieu que nous décortiquons aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Anouk Miliaud, réalisée par Cassandre Puel et mise en onde aujourd'hui par Clara Galivelle.
Il fait froid, gris. Une espèce de mouvement de plaisir tout à l'heure à l'idée d'aller aux Trois-Fontaines et de faire quelques courses nécessaires à Auchan. Comme une rupture dans le travail d'écriture, une distraction sans effort dans un lieu familier. Dès qu'on franchit l'une des barrières donnant accès payant au parking, toute une série d'embûches peuvent se présenter, qui donnent d'emblée aux courses un caractère contrariant. Être obligé de tourner longtemps avant de trouver une place qui ne soit pas située au fin fond d'un parking loin d'une entrée, s'apercevoir qu'on n'a pas un euro sur soi pour détacher un caddie, ou que, en plus de tirer irrépressiblement d'un côté, celui qu'on vient de prendre contient les détritus de l'usager précédent. Au contraire, tomber immédiatement sur une place libre ou juste en train de se libérer, et tout près de l'entrée favorite est une satisfaction de bon augure. Une autre étant de décrocher un caddie propre et aisé à manœuvrer. Mais deux chances aujourd'hui. Grande affluence dans les allées du centre. Ce sont encore les vacances de la Toussaint, plus discrètes à l'intérieur d'Auchan. Halloween étant passé, tout est en place pour Noël. À l'entrée, un énorme échafaudage de bouteilles décorées. Du champagne à 6,31€ la bouteille avec la carte Auchan, moins 20%, dont la marque n'est pas affichée. Boîte de chocolat, déco pour la table, le sapin. À perte de vue, des panneaux de couleur jaune avec promo en énormes lettres noires.
Un extrait de l'ouvrage d'Annie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour, paru en 2014, où l'on voit que l'hypermarché est à la fois lieu de contraintes, mais aussi de possibilités et d'opportunités. Mais aujourd'hui, ce sont essentiellement des lieux en difficulté, malgré l'immense succès, encore une fois, de leur modèle économique. Pascal Madry, on évoquait l'idée d'une désindustrialisation du commerce, et donc potentiellement des plans sociaux également, je le disais en début d'émission. Une question se pose, est-ce que cette reconfiguration se traduit par un report? Est-ce que là où les hypermarchés commencent à battre de l'aile, cela, on va dire, porte un autre modèle de taille plus réduite, à savoir celui du supermarché?
Je ne parlerai pas de désindustrialisation, hein, parce que le secteur reste très vif. En fait, il est en train de s'affiner et Philippe Moiti parle de démassification de la consommation. Je pense qu'on peut évoquer la même chose du côté des entreprises. On est dans une reconfiguration des formats avec des surfaces plus petites, vont maintenant dans des interstices, vont maintenant capter des marchés plus courts. L'hypermarché a été conçu pour rayonner jusqu'à 20 minutes, pour faire venir des habitants à 20 minutes en voiture. Le supermarché, lui, est plutôt sur le quart d'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai que les magasins qui progressent le plus en termes de chiffre d'affaires, de rendement, ben ce sont ces fameux formats du quart d'heure. Alors, il y a les supermarchés traditionnels et qui progressent modérément, mais malgré tout progressent en termes de part de marché. Donc, ce sont des enseignes que l'on connaît bien, Intermarché, U, etc. Je ne sais pas si on peut les citer.
Allez-y.
C'est fait.
Oui, de toute façon, voilà. Nous sommes en direct.
Et à côté de ces formats-là, on a maintenant de petits cousins sur des offres un peu plus spécialisées. Alors, dans les discounts, je continue mon énumération pour fâcher personne, les Lidl et Aldi, mais aussi dans les produits frais, les grands frais, marchés frais, etc. On a tout un développement, en fait, de la palette des supermarchés marché sur des offres plus ou moins spécialisées et qui donc s'implantent pour aller sur des marchés au quart d'heure. Et dans l'urbain, malgré tout, puisque le sujet c'est le problème de nos hypermarchés sur les rocades, sur les premières oui. couronnes, dans l'urbain, on voit aussi dans le même temps nos grands groupes de distribution se déployer avec des formats plus petits, des convenience stores, comme ils sont appelés parfois, des supérettes tout simplement, et qui fondent maintenant, servent de nouveaux leviers de croissance pour ces groupes de distribution.
Et qui se situent où
je dois citer encore des marques, mais City Market, Franprix.
Donc dans le centre-ville.
Et là, pour le coup, on est vraiment plutôt, oui, dans des cœurs urbains denses. Avec ce paradoxe, c'est que le succès de ces formats-là alimente les financements qui permettent aux groupes de distribution de développer des formats plus classiques d'hypermarché à l'international. Donc la proximité peut aussi être le nouveau relais de croissance de l'hyper dans des marchés non saturés.
Nicolas Lebrun, une question se pose, et notamment avec cette question de la saturation des rocades et des voies de circulation. On le comprend, on va dire le modèle de l'hypermarché est peut-être moins vu comme une évidence aujourd'hui, moins facile d'accès aussi, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour tout changer d'une certaine manière? En fait, ma question est la suivante. Dans quelle mesure ce qu'a proposé l'hypermarché a effectivement dévitalisé les centres-villes? Et de fait, aujourd'hui, et notamment dans les zones rurales, il n'y a plus vraiment de petits commerces dans les cœurs de ville. Et donc, on aura beau essayer d'avoir une situation, on essaie de dégraisser ces très grosses structures. Le mal est fait, c'est déjà trop tard. Et il y a bien des consommateurs qui vont avoir besoin de se rendre quelque part. Et à partir du moment où vous prenez sa voiture, les hypermarchés seront là.
Alors, je pense que la situation est foncièrement différente selon se situe dans la ville ou dans le périurbain. Dans le périurbain, vraisemblablement qu'il est trop tard. Pourquoi ? Parce que l'habitant du périurbain est dépendant de sa voiture. Donc, il va avoir des habitudes de consommation qui s'appuient sur les zones commerciales de l'entrée de ville. Il peut moins se passer, je dirais, de l'automobile. Et donc, il va garder les habitudes d'avant. En revanche, les citadins vont être, notamment dans les métropoles les plus denses, vont être dans cette configuration où ils ont une plus grande facilité à pouvoir s'inscrire dans la proximité. C'est pas pour rien si les grands concepts urbains sur la ville du quart d'heure par Carlos Moreno, etc., se sont développés au cœur des grandes métropoles mondiales. C'est parce que c'est là qu'on a l'offre de transport la plus en commun, la meilleure. C'est là qu'on a les populations qui sont habituées à donc ne pas utiliser leur voiture fréquemment. C'est là qu'on a aussi la plus forte concentration de consommateurs. En revanche, dès qu'on va dans un tissu urbain moins dense, dans des villes plus petites, voire dans du périurbain, là, la dépendance à l'automobile reste particulièrement forte. Et donc, si Casino se repositionne, par exemple, sur le petit commerce, c'est un choix qui est aussi lié au fait que les enseignes que contrôle ce groupe sont des enseignes très présentes dans les métropoles. Donc, en gros, c'est la solution de facilité des monoprix, et Naturalia, etc. On va en trouver beaucoup plus facilement au cœur de Paris qu'on va en trouver dans une petite ville de province. Et de fait, il y a une place pour la proximité au sens vertueux, c'est-à-dire celle qui ne génère pas de mouvement motorisé. Mais d'un autre côté, on n'aura pas une bascule complète vers un modèle beaucoup plus efficient d'un point de vue environnemental, dans la mesure où, pour l'instant, tout le monde n'est pas prêt, notamment parce que l'offre de transport alternative n'est pas là.
Et Pascal Madry, je crois que vous vouliez réagir. Je me permets juste de préciser qu'une commune rurale sur deux se trouve sans aucun commerce de proximité, alors qu'en 1980, les trois quarts d'entre elles disposaient encore d'au moins un petit commerce. C'est un chiffre que vous citez d'ailleurs dans un de vos articles, Pascal Madry. Donc, même question, est-ce que finalement, pour certaines populations, on aura beau dire qu'on cherche à changer de modèle, la réalité très matérielle, très physique de ces déplacements reste la même?
Aujourd'hui, là où on assiste au plus grand nombre de créations de commerce, c'est dans le rural, hein. Donc oui, effectivement, dans certains territoires ruraux et en général plutôt touristiques avec un attrait démographique, etc. Mais si je prends la démographie des boulangers, des boucheries et des alimentations, on a cartographié ce phénomène-là à l'Institut pour la ville et le commerce. C'est vraiment dans les territoires les plus éloignés que l'on assiste au développement de ce que en rebond sur la ville du quart d'heure. En fait, toutes les populations sont en train de... tous les consommateurs, en fonction de leur lieu d'habitat, sont en train de reconfigurer leur zone d'approvisionnement au quart d'heure. Avec les supérettes en milieu urbain dense, avec plutôt le hard discount en première couronne, et avec des supermarchés traditionnels et la cohorte des enseignes que j'ai citées, plus les néo-indépendants de la proximité dans le rural isolé. Tout ça au dépend des hypermarchés. Donc on est vraiment sur un lissage, une dépolarisation de la consommation alimentaire, des hyper vers ce foisonnement. Et n'oublions pas Internet, avec toutes les nouvelles interfaces liées à la vente en ligne, les consignes, les drives, etc., qui apportent des solutions de proximité, mais peut-être pas de convivialité, en revanche.
Nicolas Lebrun, vous souhaitiez réagir et peut-être sur cette,
oui.
Sur cette idée-là aussi d'une proximité, et aussi d'une course à la concurrence, à la proximité, qui nécessairement a des conséquences pour tous ces espaces.
Oui, oui, alors tout dépend de la proximité dont on parle, effectivement. Alors, la proximité dans le périurbain, elle est assez difficile à établir, parce que effectivement, ceux qui sont les plus proches des villes vont continuer à penser la proximité en termes de distance-temps, et de ce fait vont avoir un recours à la ville ou à l'entrée de ville beaucoup plus facile. Mais dès qu'on s'éloigne de la ville, effectivement, il y a un renouveau, un regain pour la proximité, dans la mesure où la ville est trop loin. En revanche, dans l'espace intermédiaire, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en gros, lorsqu'on interroge en gros les habitants du périurbain, ils sont tous favorables à ce qu'on crée des commerces de proximité dans leur village, mais d'un autre côté, on se rend compte qu'ils y vont pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a c'est un argument de différenciation. C'est-à-dire entre deux communes, on va préférentiellement aller sans celle qui a du commerce à celle qui a... Voilà. Et puis, c'est en même temps un instrument de proximité rassurante. C'est-à-dire que...
On retrouve là l'enjeu de convivialité aussi qu'on évoquait à l'instant. Mais un grand merci à tous les deux, Nicolas Lebrun et Pascal Madry, d'avoir participé à cette émission.